L'Instant Conte, des histoires chaque semaine sur Radio Saint-Aff.
L'Instant Conte, des histoires chaque semaine sur Radio Saint-Aff.
C'est le conte, c'est le conte, c'est le conte. C'est le conte, c'est le conte, c'est le conte.
Le filleul de la mort. Les monts de Bretagne, que l'on nomme Montagne Noire et Darez, sont peu remarquables comme hauteur, mais leurs pentes, sans être très rapides, sont accidentées, désertes, semées de rochers énormes, coupées par des ravins profonds, de sombres cavernes et des gouffres mystérieux, où les torrents tombent en grondant après les tempêtes de l'automne et les neiges de l'hiver. Au sud de la chaîne Darez, sur les vastes anneaux qui s'inclinent vers Carré, et entourent de leur orbe gigantesque le grand marais du Mont-Saint-Michel, l'aridité de ce sol tourmenté disparaît sous le feuillage des bois touffus et la verdure des vallons ombreux. Bois et vallons, jadis enchantés, aujourd'hui hantés par des spectres lamentables, des nains moqueurs et des démons cruels, dont les ricanements nocturnes figent le sang du voyageur attardé. Plus loin vers le midi, en approchant de la mine abandonnée de Poulaouen, on rencontre les bois du Ouelgouat et les cascades de Saint-Herbaut, lieu solitaire où passent, comme les frissons de la nuit, de vagues et plaintives rumeurs, sites pittoresques entre tous, mais trop peu connus, et que les Bretons aiment à comparer aux vallées de la Suisse ou du Tyrol. Enfin, si l'on se dirige vers le couchant, on aperçoit dans le lointain la rade de Brest et les plaines bleues de l'océan. La montagne d'où l'on domine ce panorama immense s'assombrit encore. Les roches sont plus grandes et plus nombreuses, les crevasses d'où suintent les sources plus profondes et plus mouvantes. La bruyère rougit et brûlée par les rafales marines. Ah, c'est un beau théâtre pour les scènes de nos contes et de nos légendes. Aussi les traditions y abondent-elles, lugubres et parfois tragiques. C'est bien là le berceau des fantômes bretons, où nos petits drames nous ramènent souvent. Il y avait jadis dans la paroisse de la Martyre un pauvre homme, père de famille, s'il en fut, car il en était à son 13e. Pas de chance, comme il le disait à tout propos. Il avait usé en qualité de parrain et de marraine de tous ses parents, de tous ses amis, et se trouvait à bout dans ce genre, si bien que le 13e courait grand risque de ne pouvoir être baptisé. Il alla donc, en passant au bourg, trouver le recteur et le pria d'attendre jusqu'au lendemain à midi, vu qu'il voulait trouver le patron nécessaire pour faire un chrétien de son 13e, qui, par malheur, paraissait avoir bonne envie de vivre. Sur le haut de la colline, Laou rencontra au milieu d'un brouillard qu'une lueur étrange illuminait un affreux personnage qui lui dit aussitôt « Laou, tu cherches un parrain pour ton 13e. Me voilà, si tu veux. »« Je ne dis pas non, » répondit Laou, « mais je voudrais au moins savoir qui tu es. »« Moi, je suis le diable, et je puis donner la fortune à mon filleul. »« Ah, tu es le diable. » Pour l'or, pas de chance, je ne veux pas de toi, car je veux un homme juste pour parrain de mon fils. » Et Laou continua son chemin. Un peu plus loin, il vit venir à lui sur la route un monsieur distingué, un vrai seigneur, tout habillé d'or et d'argent, avec une figure brillante comme le soleil. Laou allait passer en tirant son chapeau quand le monsieur lui dit « Mon ami, vous cherchez un parrain pour votre enfant, le 13e ? Je suis prêt si vous voulez. » « Volontiers, » dit Laou étonné, « mais auparavant, dites-moi, qui vous êtes ?»« Je suis Jésus, mon ami, et cela doit vous suffire. »« Non pas, non pas, Seigneur, je suis fâché de le dire car je suis chrétien, mais vous n'êtes pas juste non plus. »« Comme je ne suis pas juste ?»« Non, voyez-moi, j'ai 13 enfants, pas de chance, et pas de pain à leur donner, tandis que le maître du manoir de la Roche n'a qu'un pauvre petit qui est tout chétif. » « Pauvre homme aveugle, » murmura le Christ en s'éloignant, « aveugle qui oublie la récompense du ciel. » Puis, plus loin encore, en passant au bord du sombre marécage, sous les tours du château, par un temps lugubre, Laou aperçut un fantôme ambulant, un squelette blanchi, dont les os craquaient à chaque pas. Il portait une grosse montre taillée dans un crâne. « Arrête, Laou, lui dit le spectre, tu cherches un donneur de nom pour ton 13e, tu ne trouveras pas meilleur que moi. » « Qui êtes-vous donc, l'homme maigre ?» répondit Laou en grelottant à sa vue. « Moi, je suis faucheur de mon état. »« Ah, vous êtes faucheur, c'est comme moi dans le temps des foins. »« Oh !» fit le vieux fantôme, « moi je ne fauche que l'herbe du cimetière. »« Je suis Fanch Anankou. » »« c'est bon, » dit Laou, « j'accepte car vous êtes juste, vous du moins. Vous avez même justice pour les riches et les pauvres, les forts et les faibles. » J'accepte, venez. » Il fallait voir l'horrible faucheur rire, mais rire jaune, en poussant l'aiguille de sa montre qui ne va jamais assez vite à son gré. Le 13e enfant de Laou fut nommé Fanche, du nom de son parrain. Après le baptême, le pauvre homme donnait un souper de pauvre avec de la bouillie de blé noir et des pommes de terre arrosées de cidre doux. Pourtant, on dit que Fanche le squelette avait une si vieille soif et qu'il but tant de cidre pour réchauffer ses vieux os qu'à la fin, il ne grelottait plus et causait presque comme un vivant. Enfin, entre deux chopines, Fanche la mort, naturellement ennemi des médecins, enfin en vint à son idée fixe et dit à Laou, qui le consultait sur le métier à apprendre au nouveau-né. « Vois-tu, Laou, faudra faire un apothicaire de ton fils. Bon métier, mon vieux. » « Vous voulez rire, Fanche, c'est un état de rien. »« Ça dépend de la manière, » reprit le faucheur funèbre. « Auprès de moi, les apothicaires sont des ânes, sauf le respect que je leur dois. »« Oh oh, » fit Laou, « comment cela ?» Le maigre fantôme, plus expansif à mesure qu'il buvait plus de cidre, répondit. « Voilà, ils me laissent toujours place à la tête du malade et s'en vont d'habitude vers les pieds. »« C'est afin de mieux voir la figure, apparemment. »« Peut-être, mon vieux, mais si vos médecins ne perdaient pas la tête... » Moi, je n'aurai plus que les pieds et le malade guérirait facilement, tu comprends ? Là-dessus, Fanche la mort, sans doute gris pour la première fois de sa longue vie, se mit à rire, comme peut rire la mort grise. Et après avoir regardé sa grosse montre, le fantôme s'en alla, un peu de travers en titubant, dit-on, et en faisant claquer sa mâchoire. Longtemps après, 18 ans peut-être, le 13e fils de Laou, pas de chance, qui s'ennuyait à la martyr et semblait avoir trop d'esprit pour un paysan, déclara qu'il voulait être chirurgien, reboutou ou apothicaire, ce qui revint au même. Ce fut en vain que le recteur lui avait enseigné le latin et lui avait appris à chanter le Kyrie eleison dans l'espoir d'en faire un prêtre, voulut lui démontrer que la soutane est le meilleur habit de ce monde. Fanche, l'entêté, jura qu'il n'était pas filleul de la mort pour rien et qu'il serait médecin, naturellement à cause de la parenté. Fallut bien lui céder, et son père, lui, ayant acheté des ciseaux, un couteau neuf, des tenailles, une flamme à saigner, des chevaux et autres ustensiles nécessaires dans l'état, Fanche se disposa à partir. En embrassant pour la dernière fois son 13e, le père lui dit « Vois-tu, Franchki, je m'en vais t'apprendre un secret que je tiens de ton digne parrain. »« Oh, un secret d'un Nanouk ?» s'écria Fanche. « Non, non, mon père, je n'en veux pas, ça me porterait malheur. » Laissez faire, avant un an, vous aurez du tabac, des sabots neufs et du pain pour les 12 autres. Pour l'or, bonne chance, cette fois mon fils, s'il plaît à Dieu. Par malheur, le fils de Laou avait compté 100 lots du trépas. Un Anouk était plus alerte que son filleul. La mort est si prompte, si imprévue, si impitoyable, que Fanche arrivait toujours trop tard et toujours il trouvait le vieux faucheur installé à la tête des malades. Pas de chance. Enfin, presque désespéré, Fanche apprit un jour que son parrain avait filé à Paris et que le monde y mourait comme des mouches. Voilà donc Fanche 13, décidé à partir aussi pour changer la veine. La grande route de Paris passe, comme vous savez, par la montagne d'Arez et notre aventurier médecin, ayant aperçu en passant le toit de Genet de la cabane du bonhomme Laou, résolut d'aller lui demander la bénédiction paternelle. Sa mère était morte depuis longtemps. « Mon pauvre père, lui dit-il, je n'ai ni tabac ni sabot à vous donner. Mon parrain est plus vif ou plus fin que votre 13e. »« Pas de chance, mon fils, dit le bonhomme. Mais vois-tu, Fanche, si tu avais voulu m'écouter l'autre fois, tu aurais su le secret d'un Anouk. Pour lors, voyons son secret, ça doit être drôle. »« Pas si drôle que ça, mon garçon. Écoute, quand tu vas auprès d'un malade, faut tout de suite attraper sa tête, car tu comprends que si tu laisses la tête à ton parrain, tu as beau frotter le cœur et tirer sur les pieds, le tour est bientôt joué et le malade s'en va avec l'autre. Ma foi, c'est vrai, dit Fanche, et gare à lui désormais. Enfin, Fanche, 13, arriva à Paris. Alors il vit des draps noirs à beaucoup de portes et apprit que le fils du roi était désespéré depuis la veille. Diable, il est temps, se dit-il, à qui la victoire cette fois ? C'est ce que nous allons voir. Tout en méditant là-dessus, Fanche se rendit au palais du roi et frappa au grand portail. On répondit aussitôt « Qui est là ?»« C'est moi, Fanche 13 de la martyr. »« 13 ? Point de Judas, dit la portière d'une voix enrouée, en mettant un œil à la lucarne. On ne reçoit pas les gueux ici, martyrs ou autres. D'ailleurs, je suis enrhumé depuis la Toussaint. Ainsi, tu peux filer. Vous êtes enrhumé, reprit le fils de Laou. Comme ça se trouve, moi qui suis chirurgien, pour les rhumes. Faites-moi donc, noble dame, le plaisir d'accepter ce petit présent. En disant cela, le rusé passa par le guichet un joli morceau de ce louzou noir si cher aux vieilles enrhumées de tous les temps. Les petits cadeaux font naître l'amitié et la bonne femme, flattée autant du compliment que du cadeau, ouvrit le portail en dégustant le louzou noir. Une fois entrée, Fanche se mit à faire jaser la portière, ce qui n'est pas difficile d'habitude. Si bien qu'après 5 ou 6 jolies quintes de tout, la vieille apprit à notre aventurier que le fils du roi avait empiré, surtout depuis l'arrivée d'un grand sec qui ne quittait plus son chevet. Puis que le monarque avait une fille jeune et belle comme le jour et un vieux ministre nommé Barabbas, ventru, grignou et tracassier comme tous ces gens-là, et qui gardait le lit en qualité de malade imaginaire. Bon, voilà mon affaire, se dit Fanche. Après avoir réfléchi, la chance se tourne. Puis il dit à la bonne femme que le louzou noir avait amadoué. Écoutez bien, je me charge de guérir le fils du roi, mais à une condition. C'est que, tout à l'heure, dès que je serai installé auprès de lui, vous viendrez bien vite en pleurant, en toussant, surtout en criant, dites au roi que maître Barabbas se meurt pour de bon. Ah, fit la vieille commère, si c'était seulement vrai, il est si désagréable. Oui, reprit Franche en riant, le ministre s'en ira avec l'autre, et votre rhume aussi, si vous m'obéissez, madame. Soyez tranquille, seigneur, Reboutou. 3 minutes après, Franche, ayant été introduit dans la chambre, vit son affreux parrain qui tenait la tête pâle du prince. Voilà donc la mort et son filleul en présence. À qui resta la victoire ? La vieille arriva bientôt en criant de toutes ses forces que monsieur le ministre avait une attaque et qu'il allait trépasser pour sûr. Fallait voir Franche la mort, qui regardait la besogne du prince comme finie, allonger ses maigres jambes afin d'aller au plus vite soigner le gros Barabbas. Mais au moment de sortir, il ordonna à son filleul de ne pas bouger de sa place avant son retour. Ce qui ne devait pas être long, car il comptait bien faucher le ministre, si dur à cuire qu'il fût, en moins de 5 minutes. Le filleul jura qu'il ne changerait pas de place, et l'autre sortit en lui montrant sa mâchoire édentée et sa grosse montre qu'on entendait marcher sans cesse. Tic-tac, tic-tac. Vous croyez peut-être que notre ami 13 se trouva bien embarrassé, puisqu'il avait juré de rester au pied du lit. Non, pour un Reboutou de la martyre, Franche ne fut pas trop embarrassé. Vite, il prit le malade dans ses bras, lui fit faire un demi-tour sur son lit et se mit à lui frotter la tête avec un louzou de première qualité. 1 minute après, le fils du roi demanda sa pipe et un petit verre. Anankou ne tarda pas à revenir en faisant claquer ses os d'un air content et reprit sa place sans regarder sous les rideaux. Il tenait sa grosse horloge à la main, l'horloge qui mesure à tous et le temps et les jours. Et comptait les dernières minutes du jeune prince, comme il venait de compter les dernières secondes du vieux ministre. « Oui, tu peux compter, faucheur d'herbe blanchie. Écoute, écoute bien, c'est ton malade qui éternue. Dieu vous bénisse. » Et le voilà qui demande une tasse de café. « Ah ah, docteur, trompe la mort, vous avez fait là une besogne que j'engage les autres à imiter. » Enfin, le fils du roi, ressuscité, se leva aussitôt en jetant sa couverture sur la tête du grand squelette et sortit sans oublier sa pipe avec son père transporté de joie et Fanche qui appelait son serveur. Pendant tout cela, la jeune princesse était allée faire un tour de promenade. Quand elle revint, elle vit venir à sa rencontre 2 messieurs très bien mis, bras dessus, bras dessous. L'un d'eux était encore un peu pâle et la demoiselle, fort sensible à ce que l'on dit, se trouva presque mal en le voyant si bien, car elle avait cru son frère quasiment mort et enterré. Finalement, le jeune prince reconnaissait comme de raison, présentait à sa jolie sœur le fils de Laou, qu'il avait un peu trop tapé en l'appelant son vrai sauveur et son meilleur ami, de sorte qu'en rentrant au palais, c'était le Reboutou de la martyre qui donnait le bras à la princesse, à laquelle il faisait un compliment fort bien tourné, ma foi, en français, à ce que l'on m'a assuré. Et puis, 8 jours après, juste un mardi gras, il y eut noces et fricots à Paris, si beau que les Parisiens, qui sont des malins, n'en ont jamais vu de pareil. Mais Franche Anankou ne fut pas invité à cause de sa mâchoire édentée et de son horrible montre, où l'on n'aime pas à regarder l'heure. Et quand on alla voir dans la chambre du prince, on ne trouvera rien du tout sous la couverture du lit. Le vieux faucheur, vaincu pour un jour, avait filé en emportant le ministre trépassé. On dit que le monarque, satisfait, et la vieille portière guérie de son rhume, couvrir Fañch XIII de leur bénédiction et que celui-ci, quoique devenu prince, voulut encore soigner les malades sans jamais perdre la tête, afin de les disputer au trépas son parrain. Heureux les médecins habiles qui savent user à propos de la recette des Fañch XIII et chasser un coup loin du chevet de leurs malades. Ceux-là ont de la chance. Voilà, et comme la semaine d'avant, ça vient du livre « Contes, récits et légendes des pays de France » rassemblé par Claude Seignol, et c'est des contes bretons. Et c'était l'Instant Conte sur Radio Saint-Afrique, au 96.7 à Saint-Afrique, 99.9 à Belmont-sur-Rance, 92.7 à Camarès et 100.6 à Millau et également sur Internet. Bonne journée.